Вариант 1. Сейчас вы будете выполнять задание по аудированию. Каждый текст прозвучит 2 раза. После первого и второго прослушивания у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. По окончании выполнения всего раздела «Аудирование» перенесите свои ответы в бланк ответов номер 1. Задание Б1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего 1-6 и утверждениями, данными в списке А-Ж. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей буквой, только 1 раз. В задании есть 1 лишнее утверждение. Вы услышите запись 2. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
Le nouveau programme scolaire.
Numéro 1.
Dès la rentrée prochaine, les lycéens de seconde devront suivre comme enseignement d'exploration les sciences économiques et sociales, SES, ou la nouvelle discipline Principes fondamentaux d'économie et de gestion, avec la possibilité d'opter pour les deux. Or, le contenu du programme soulève la polémique. Ce nouveau programme rendra-t-il l'économie plus concrète? Ce programme est-il trop du côté des patrons? Les profs de SES sont-ils trop de gauche?
Numéro 2.
Plusieurs professeurs d'université ont signé un document commun. Selon eux, le nouveau programme rendra l'économie plus concrète, puisqu'elle expliquera comment raisonnent les différents acteurs. Les banquiers, les patrons, les politiques, les banques centrales des différents pays. L'ambition de ce nouveau programme est de montrer aux élèves que l'économie n'est pas un ensemble abstrait de mécanismes complexes, mais le produit des décisions concrètes d'agents interagissant dans un même système. Ont-ils expliqué dans le quotidien économique La Tribune?
Numéro 3.
Je m'appelle Arnaud Parianti. Je suis professeur de SES au lycée de Courbevoie. Je suis contre ce programme parce que tout en se concentrant sur les mécanismes de l'économie de marché, le programme oublie les conséquences des choix économiques sur la vie des gens. Preuve, par rapport au programme de seconde actuel, ont disparu de la liste des notions à étudier le chômage, les inégalités de revenus, les conditions de travail, les consommations collectives, entre autres. Cette liste n'est pas anodine. Toutes les questions vives sont impitoyablement pourchassées au profit d'un enseignement aseptisé.
Numéro 4.
Je suis membre de l'organisation lycéenne majoritaire. Je serai direct. En enlevant tous les aspects sociaux du programme de SES, le gouvernement espère-t-il faire de nos lycéens de braves moutons formés à la logique d'entreprise, prêts à se faire licencier, à être de bons soldats? Clairement, le gouvernement prend le pari de faire des nouvelles générations de salariés corvéables et précaires.
Numéro 5. Je m'appelle Philippe Martin. Je suis membre de la commission de réflexion sur ce programme. Je ne suis pas d'accord qu'on ait enlevé tous les aspects sociaux du programme. On ne peut pas inclure tous les problèmes économiques dans un programme scolaire. Je pense que le but est surtout de faire comprendre des concepts de base. les élèves sont invités à raisonner en économistes. Ces concepts permettent de connaître le langage commun à toutes les théories, notamment libérales. Libre ensuite aux enseignants de s'appuyer sur les exemples qu'ils veulent. Numéro 6.
Je m'appelle Michel Godet. Je suis économiste et professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Pour moi, la réforme c'est bien, mais il faudrait surtout changer les profs. Moins d'enseignants formés à l'université, davantage de cadres et de patrons venus de l'entreprise, il faudrait des profs associés dans les lycées qui enseigneraient l'économie réelle et non celle des manuels où l'entreprise est assimilée à l'exploitation. C'est à cause de cela que 2/3 des jeunes ont peur du monde du travail et aspirent à devenir fonctionnaires.
Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre les textes encore une fois.
Le nouveau programme scolaire.
Numéro 1.
Dès la rentrée prochaine, les lycéens de seconde devront suivre comme enseignement d'exploration les sciences économiques et sociales, SES, ou la nouvelle discipline Principes fondamentaux d'économie et de gestion, avec la possibilité d'opter pour les deux. Or, le contenu du programme soulève la polémique. Ce nouveau programme rendra-t-il l'économie plus concrète? Ce programme est-il trop du côté des patrons? Les profs de SES sont-ils trop de gauche?
Numéro 2.
Plusieurs professeurs d'université ont signé un document commun. Selon eux, le nouveau programme rendra l'économie plus concrète, puisqu'elle expliquera comment raisonnent les différents acteurs, les banquiers, les patrons, les politiques, les banques centrales des différents pays. L'ambition de ce nouveau programme est de montrer aux élèves que l'économie n'est pas un ensemble abstrait de mécanismes complexes, mais le produit des décisions concrètes d'agents interagissant dans un même système, ont-ils expliqué dans le quotidien économique La Tribune.
Numéro 3.
Je m'appelle Arnaud Parionti. Je suis professeur de SES au lycée de Courbevoie. Je suis contre ce programme parce que tout en se concentrant sur les mécanismes de l'économie de marché, le programme oublie les conséquences des choix économiques sur la vie des gens. Preuve, par rapport au programme de seconde actuel, ont disparu de la liste des notions à étudier le chômage, les inégalités de revenus, les conditions de travail, les consommations collectives, entre autres. Cette liste n'est pas anodine. Toutes les questions vives sont impitoyablement pourchassées au profit d'un enseignement aseptisé.
Numéro 4.
Je suis membre de l'organisation lycéenne majoritaire. Je serai direct. En enlevant tous les aspects sociaux du programme de SES, le gouvernement espère-t-il faire de nos lycéens de braves moutons formés à la logique d'entreprise, prêts à se faire licencier, à être de bons soldats? Clairement, le gouvernement prend le pari de faire des nouvelles générations de salariés corvéables et précaires.
Numéro 5. Je m'appelle Philippe Martin. Je suis membre de la commission de réflexion sur ce programme. Je ne suis pas d'accord qu'on ait enlevé tous les aspects sociaux du programme. On ne peut pas inclure tous les problèmes économiques dans un programme scolaire. Je pense que le but est surtout de faire comprendre des concepts de base. Les élèves sont invités à raisonner en économistes. Ces concepts permettent de connaître le langage commun à toutes les théories, notamment libérales. Libre ensuite aux enseignants de s'appuyer sur les exemples qu'ils veulent. Numéro 6.
Je m'appelle Michel Godet. Je suis économiste et professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Pour moi, la réforme c'est bien, mais il faudrait surtout changer les profs. Moins d'enseignants formés à l'université, davantage de cadres et de patrons venus de l'entreprise, il faudrait des profs associés dans les lycées qui enseigneraient l'économie réelle et non celle des manuels où l'entreprise est assimilée à l'exploitation. C'est à cause de cela que 2/3 des jeunes ont peur du monde du travail et aspirent à devenir fonctionnaires.
C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses.
Задание А1А7. Вы услышите разговор знакомых. Определите, какие из приведенных утверждений А1А7 соответствуют содержанию текста 1. Вре. Какие не соответствуют? 2. Фо. И о чем в тексте не сказано. То есть, на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа. 3. Aucune information. Обведите номер выбранного вами ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
Festival du court-métrage.
Dis-moi, Daniel, j'ai vu une affiche sur le festival du court-métrage à Clermont. Toi, le cinéphile, tu dois sûrement connaître ça.
Ma chère Aline, je pense bien. C'est le premier festival de court-métrage du monde.
Ah bon? Il y a un palmarès comme à Cannes?
Bien sûr. Il y en a même 3, parce qu'il y a 3 compétitions en fait. National, international et labo.
Labo, c'est quoi?
Des films plus expérimentaux. Des recherches de forme, tu vois.
Et ça fait beaucoup de films tout ça?
Tu parles. J'ai entendu à la radio que les organisateurs en avaient reçu près de 4000. Tu te rends compte? Mais il y a une sélection, évidemment. Dans les compétitions internationales, il y a 80 films cette année. J'ai oublié combien dans les autres, un peu moins sans doute.
Alors, comment ça marche pour le public? Je veux dire, c'est organisé comment?
Eh bien, les films sont répartis dans des programmes. En général, un programme, c'est 5 ou 6 courts-métrages. Et à chaque heure, tu as le choix entre 5 programmes. Parce qu'en plus des 3 compétitions, il y en a encore plein d'autres choses. Par exemple, chaque année, il y a un pays différent qui est invité d'honneur. Cette année, c'est le Royaume-Uni. Il y a aussi des sélections pour les jeunes, des programmes sur des thèmes particuliers.
Attends, à chaque heure? Mais tu dis qu'un programme dure au moins 1h30.
Oui, mais dans 5 salles. Les séances commencent aux heures impaires et dans 5 autres, aux heures paires. Depuis quelques années, c'est comme ça pour essayer de partager les spectateurs et de réduire les files d'attente.
Il y a beaucoup de monde.
Oui, énormément. C'est un festival international et il est très populaire dans la ville même, en particulier auprès des étudiants. Quand il a commencé en 1979, c'était un tout petit festival. Aujourd'hui, on entend 130 000 spectateurs.
Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre le texte encore une fois.
Festival du court-métrage.
Dis-moi, Daniel, j'ai vu une affiche sur le festival du court-métrage à Clermont. Toi, le cinéphile, tu dois sûrement connaître ça.
Ma chère Aline, je pense bien. C'est le premier festival de court-métrage du monde.
Ah bon? Il y a un palmarès comme à Cannes?
Bien sûr. Il y en a même 3, parce qu'il y a 3 compétitions en fait. National, international et labo.
Labo, c'est quoi?
Des films plus expérimentaux. Des recherches de forme, tu vois.
Et ça fait beaucoup de films tout ça?
Tu parles. J'ai entendu à la radio que les organisateurs en avaient reçu près de 4000. Tu te rends compte? Mais il y a une sélection, évidemment. Dans les compétitions internationales, il y a 80 films cette année. J'ai oublié combien dans les autres, un peu moins sans doute.
Alors, comment ça marche pour le public? Je veux dire, c'est organisé comment?
Eh bien, les films sont répartis dans des programmes. En général, un programme, c'est 5 ou 6 courts-métrages. Et à chaque heure, tu as le choix entre 5 programmes. Parce qu'en plus des 3 compétitions, il y en a encore plein d'autres choses. Par exemple, chaque année, il y a un pays différent qui est invité d'honneur. Cette année, c'est le Royaume-Uni. Il y a aussi des sélections pour les jeunes, des programmes sur des thèmes particuliers.
Attends, à chaque heure? Mais tu dis qu'un programme dure au moins 1h30.
Oui, mais dans 5 salles. Les séances commencent aux heures impaires et dans 5 autres, aux heures paires. Depuis quelques années, c'est comme ça pour essayer de partager les spectateurs et de réduire les files d'attente.
Il y a beaucoup de monde.
Oui, énormément. C'est un festival international. Il est très populaire dans la ville même, en particulier auprès des étudiants. Quand il a commencé en 1979, c'était un tout petit festival. Aujourd'hui, on entend 130 000 spectateurs.
C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses.
Задание А8, А14. Вы услышите интервью. В заданиях А8, А14 обведите цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
Double médaillé olympique.
Vice-champion du monde de patinage artistique à 22 ans, double médaillé olympique, Philippe s'est forgé un style bien à lui, cultivant son grain de folie. Il nous dévoile son parcours à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver qu'il commande pour France Télévisions. Philippe, comment avez-vous débuté au patinage artistique?
Un jour, je suis allé à la patinoire avec ma classe de CE2. Alors que mes camarades chutaient ou trébuchaient, je me suis tout de suite senti dans mon élément. André Brunet, qui est devenu ensuite mon entraîneur, m'a repéré ce jour-là. Quand j'ai eu 8 ans, il a convaincu mes parents de m'inscrire en section sport-études. Mon père est un maçon d'origine italienne et ma mère était comptable. Dans ma famille, on ne roulait pas sur l'or et personne ne patinait. Mais ils ont cru en moi. 2 ans plus tard, j'étais champion de France espoir.
L'entraînement et les copains, c'était facile à concilier?
Mes copains hockeyeurs me chambraient en me répétant que le patinage était un sport de riches et de gonzesses. À force, je finissais par me poser des questions. Alors j'évitais de leur en parler. Cela ne m'empêchait pas d'être chaque jour sur la glace, dès 7 heures du matin. Malgré mon emploi du temps chargé, je trouvais toujours un moment pour traîner avec mes potes dans la cité. J'avais besoin d'eux et de cette liberté.
Vous avez gardé le même entraîneur durant toute votre carrière. Croyez-vous aux rencontres qui changent tout?
Bien sûr! André a été la chance de ma vie. Sans lui, je n'en serais pas là. Il lui a fallu bien du courage pour me gérer. J'étais un gamin turbulent, avec de l'énergie à revendre. J'en voulais. Il a su me canaliser, sans jamais chercher à me fondre dans un moule ou à brider ma personnalité.
Avez-vous toujours eu cette volonté d'être le premier?
L'école, ce n'était pas mon truc. Je ne suivais que les cours qui m'intéressaient, c'est-à-dire pas grand-chose. Sur la glace, tout me réussissait. C'était vraiment gratifiant, même si tout n'était pas rose. J'étais tellement en avance que, en compétition, j'affrontais souvent des concurrents plus vieux que moi. Parfois, j'avais si peur que je vomissais en arrivant à la patinoire. Mais peu à peu, j'ai appris à prendre sur moi. L'expérience m'a forgé et, au fil des années, mon mental est devenu plus fort.
Avoir un don, c'est suffisant pour réussir?
Bien sûr que non. Il faut aussi travailler. J'ai l'image d'un mec un peu foufou, mais j'ai toujours été un bosseur et un perfectionniste. Parfois trop. Lorsque mon entraîneur me disait que j'avais réussi un saut, il fallait que je le répète jusqu'à ce que j'en sois convaincu moi-même. Sinon, je n'étais pas vraiment tranquille.
En compétition, vous aviez un style bien à vous. Se sentir différent, est-ce que cela peut être un atout?
Si vous êtes fondu dans la masse, personne ne vous remarque. Alors, dès qu'on a un projet, il faut croire en soi et foncer, sans pour autant faire n'importe quoi. Avant de se lancer, il faut réfléchir, mais tirer les risques. Mais la chance se provoque. Lorsqu'on s'obstine et qu'on s'accroche à son rêve, on est toujours récompensé d'une manière ou d'une autre. Si on n'atteint pas l'objectif que l'on s'était fixé, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir essayé et d'avoir tout donné. Ainsi, on n'a pas de regrets. Mais pour réussir, il faut aussi rester soi-même. Mes chorégraphies et mon côté provocateur ont souvent dérangé les juges. Et je l'ai parfois payé cher. Mes victoires n'en ont été que plus belles. Mes médailles de bronze gagnées aux Jeux Olympiques de Lillehammer en Norvège en 1994 et de Nagano, Japon en 1998 restent un souvenir exceptionnel. Parce que je les ai obtenues en respectant mes origines et mon grain de folie.
Votre vie a-t-elle changé lorsque vous avez abandonné la compétition pour devenir pro à la fin des années 90?
J'ai pu continuer à vivre de ma passion. Je continuais toutefois à m'entraîner dur pour monter des tournées en France et à l'étranger. Depuis 4 ans, je suis consultant sportif sur France Télévisions, où je commente les épreuves de patinage. Je rêve maintenant de présenter une émission qui me ressemble vraiment, où j'aurai carte blanche. Le patinage m'a appris à être persévérant et à faire preuve d'ouverture d'esprit. Je tiens à ces valeurs. Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre le texte encore une fois.
Double médaillé olympique.
Vice-champion du monde de patinage artistique à 22 ans, double médaillé olympique, Philippe s'est forgé un style bien à lui, cultivant son grain de folie. Il nous dévoile son parcours à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver qu'il commande pour France Télévisions. Philippe, comment avez-vous débuté au patinage artistique?
Un jour, je suis allé à la patinoire avec ma classe de CE2. Alors que mes camarades chutaient ou trébuchaient, je me suis tout de suite senti dans mon élément. André Brunet, qui est devenu ensuite mon entraîneur, m'a repéré ce jour-là. Quand j'ai eu 8 ans, il a convaincu mes parents de m'inscrire en section sport-études. Mon père est un maçon d'origine italienne et ma mère était comptable. Dans ma famille, on ne roulait pas sur l'or et personne ne patinait. Mais ils ont cru en moi. 2 ans plus tard, j'étais champion de France espoir.
L'entraînement et les copains, c'était facile à concilier?
Mes copains hockeyeurs me chambraient en me répétant que le patinage était un sport de riches et de gonzesses. À force, je finissais par me poser des questions. Alors j'évitais de leur en parler. Cela ne m'empêchait pas d'être chaque jour sur la glace, dès 7 heures du matin. Malgré mon emploi du temps chargé, je trouvais toujours un moment pour traîner avec mes potes dans la cité. J'avais besoin d'eux et de cette liberté.
Vous avez gardé le même entraîneur durant toute votre carrière. Croyez-vous aux rencontres qui changent tout?
Bien sûr! André a été la chance de ma vie. Sans lui, je n'en serais pas là. Il lui a fallu bien du courage pour me gérer. J'étais un gamin turbulent, avec de l'énergie à revendre. J'en voulais. Il a su me canaliser, sans jamais chercher à me fondre dans un moule ou à brider ma personnalité.
Avez-vous toujours eu cette volonté d'être le premier?
L'école, ce n'était pas mon truc. Je ne suivais que les cours qui m'intéressaient, c'est-à-dire pas grand-chose. Sur la glace, tout me réussissait. C'était vraiment gratifiant, même si tout n'était pas rose. J'étais tellement en avance que, en compétition, j'affrontais souvent des concurrents plus vieux que moi. Parfois, j'avais si peur que je vomissais en arrivant à la patinoire. Mais peu à peu, j'ai appris à prendre sur moi. L'expérience m'a forgé et, au fil des années, mon mental est devenu plus fort.
Avoir un don, c'est suffisant pour réussir?
Bien sûr que non. Il faut aussi travailler. J'ai l'image d'un mec un peu foufou, mais j'ai toujours été un bosseur et un perfectionniste. Parfois trop. Lorsque mon entraîneur me disait que j'avais réussi un saut, il fallait que je le répète jusqu'à ce que j'en sois convaincu moi-même. Sinon, je n'étais pas vraiment tranquille.
En compétition, vous aviez un style bien à vous. Se sentir différent, est-ce que cela peut être un atout?
Si vous êtes fondu dans la masse, personne ne vous remarque. Alors, dès qu'on a un projet, il faut croire en soi et foncer, sans pour autant faire n'importe quoi. Avant de se lancer, il faut réfléchir, mais tirer les risques. Mais la chance se provoque. Lorsqu'on s'obstine et qu'on s'accroche à son rêve, on est toujours récompensé d'une manière ou d'une autre. Si on n'atteint pas l'objectif que l'on s'était fixé, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir essayé et d'avoir tout donné. Ainsi, on n'a pas de regrets. Mais pour réussir, il faut aussi rester soi-même. Mes chorégraphies et mon côté provocateur ont souvent dérangé les juges. Et je l'ai parfois payé cher. Mes victoires n'en ont été que plus belles. Mes médailles de bronze gagnées aux Jeux Olympiques de Lillehammer en Norvège en 1994 et de Nagano, Japon, en 1998 restent un souvenir exceptionnel. Parce que je les ai obtenues en respectant mes origines et mon grain de folie.
Votre vie a-t-elle changé lorsque vous avez abandonné la compétition pour devenir pro à la fin des années 90?
J'ai pu continuer à vivre de ma passion. Je continuais toutefois à m'entraîner dur pour monter des tournées en France et à l'étranger. Depuis 4 ans, je suis consultant sportif sur France Télévisions, où je commente les épreuves de patinage. Je rêve maintenant de présenter une émission qui me ressemble vraiment, où j'aurai carte blanche. Le patinage m'a appris à être persévérant et à faire preuve d'ouverture d'esprit. Je tiens à ces valeurs. C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses. Votre épreuve de compréhension orale est terminée.
Время, отведенное на выполнение заданий, истекло.